L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 294e numéro de l'Écho des Gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, comme toutes les deux semaines, je suis avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Et ce soir, nous recevons également Marie. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Qui est une fidèle auditrice de l'émission, qui nous écoute de Suède, qui est ingénieure de recherche en Suède. Marie, je te laisse te présenter.
Oui, donc moi c'est Marie. Je parle en effet la langue native de Linus Torvalds, puisque j'habite en Suède depuis 13 ans, mais vous aurez peut-être l'occasion de me réentendre puisque je suis à Lille très régulièrement. Je suis originaire d'ici, ingénieure de recherche à l'Université d'Uppsala. Je suis aussi contributrice à Raoul, qui est une association pour l'émergence d'outils libres pour les associations.
Raoul, qui est le chaton lillois.
Le chaton lillois, tout à fait. Et je suis aussi cofondatrice avec Laetitia Diverchi, Jacqueline Ruindo et Tanlan Doublier de Ch'tidev, qui est une association pour les femmes et minorités de genre qui se réunissent en non-mixité et qui permet de parler d'informatique entre nous. Voilà.
Et donc, ce soir, tu vas nous poser des questions.
Tout à fait. J'ai eu l'occasion de parler à une conférence qui s'appelle le DevLil, qui est une conférence d'informatique générique, hein, rien à voir avec le libre. Mais j'ai osé soumettre un sujet qui s'appelle le libre et l'open source. Cette conférence, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Pour rendre la conférence le plus démocratique possible, j'ai utilisé un outil qui s'appelle onlinequestions.org, un outil libre, et ça m'a permis de poser les questions de manière le plus démocratique possible à l'auditoire, et je me suis retrouvée avec moins d'une vingtaine de questions à répondre, et je me suis dit pourquoi pas venir à l'Écho des Gnous pour demander ces questions, les cinq questions les plus populaires.
On commence par les actualités, on reviendra donc du coup sur ces questions. Et Pierre, on va parler de notre fil rouge, notre running gag,
lequel?
Le contrôle de l'âge.
Ah, celui-là, parce qu'on en a beaucoup en ce moment. Hein. On a aussi l'IA, on a aussi la souveraineté.
Il y a un côté tragicomique quand même dans le contrôle d'âge.
Ouais, alors donc là, la barre a été mise très haute par les États-Unis. Avec la California Assembly Bill 1043, donc la loi de l'Assemblée californienne numéro 1043, aussi appelée Digital Age Assurance Act. Donc on en avait parlé, je crois.
Elle Californie qui n'a même pas l'excuse d'avoir un timbré à sa tête.
Non, tout à fait. C'est un démocrate, il me semble. Mais donc elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027 et c'est un peu la panique, puisqu'elle oblige, dans le but évidemment de la protection des mineurs contre les contenus nuisibles en ligne, elle oblige tous les systèmes d'exploitation et tous les magasins d'applications disponibles en Californie de mettre en œuvre un contrôle d'âge et de transmettre cette information de contrôle d'âge auprès des applications et auprès des navigateurs web pour que ces derniers puissent informer les sites web de oui, l'utilisateur a le bon âge ou non.
Alors, techniquement, c'est pas compliqué. Pardon ? Si c'est seulement du déclaratif.
Voilà, si c'est seulement du déclaratif. Le problème, c'est que comment tu veux... C'est là où c'est compliqué, justement. C'est que ce n'est pas que du déclaratif. Alors, juste demander l'âge, pourquoi pas ? Mais c'est déjà un peu con. Enfin, c'est juste demander la date de naissance. Ça se change, surtout sur un système libre. C'est très limité comme solution. Et en fait... Derrière, l'idée, c'est plutôt de reconnaître l'âge avec quelque chose de plus fiable. Alors, il y a plein de problématiques autour de tout ça. Il y a eu une alerte qui a été levée déjà par des chercheurs sur le fait que généraliser le contrôle de l'âge, donc que ce soit dans les services en ligne ou là sur les systèmes d'exploitation, alors sur les services en ligne en particulier, c'est une très mauvaise idée du point de vue de la vie privée parce que ça oblige à diffuser une information importante, surtout quand on veut vraiment vérifier l'âge. seulement et pas seulement le déclarer. Quand on veut vérifier l'âge, ça implique de diffuser des papiers d'identité, ce genre de choses, à beaucoup de monde, y compris à des gens qui vont les stocker et les perdre.
Parce qu'on est sur la même problématique, en fait, que de l'absence de l'interdiction du pseudonymat sur Internet. Donc, il y a un peu un loup de mer également qui est souvent mis en avant pour lutter contre la haine en ligne.
Tout à fait.
Et à ce propos, je voudrais recommander un logiciel du gouvernement qui s'appelle filigrane.beta.gouv.fr qui vous permet de charger vos papiers, vos documents, et ça permet d'ajouter un petit filigrane. Par exemple, vous écrivez papier uniquement pour la banque, machin, et ce sera inscrit dessus.
Ça permet de lutter contre les usurpations d'identité, notamment quand on lise les dossiers. Je pense surtout pour les locations.
Alors, heureusement qu'aucun logiciel n'existe pour retirer un filigrane. Ouais. Bon. Je suis désolé, hein, les IA génératifs, ça fait ça extrêmement bien, malheureusement. C'est un gros problème, justement.
Ouais.
Merci Pierre de plomber l'ambiance.
Ah ben ouais, ben écoute, c'est le fil rouge de plomber l'ambiance. Pardon, non, l'IA c'est le fil rouge malheureusement, et là-dessus c'est un gros problème. Et donc il y a plein de... Donc il y a les chercheurs qui s'opposent à ça, il y a System76 qui est un fabricant d'ordinateurs qui développe une distribution Linux, donc qui est basée aux États-Unis et qui a fait un article pour dire que ben... ils vont faire ce qu'ils peuvent pour respecter la loi, alors la loi de Californie et la loi de l'État de New York. Il y a un problème sur ces deux lois, hein. C'est pas la même chose. Donc la Californie, c'est déclaratif, on vient d'en parler, ça va. L'État de New York, il faut faire des contrôles. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué à faire. Et donc, ils expliquent, on va le faire, mais c'est débile. Parce que rien n'empêche un utilisateur mineur d'installer une machine virtuelle sur l'ordinateur.
Ouais, en fait, ton utilisateur mineur, il est déjà... Il
y a des tutos. Et à partir du moment où il va y avoir des tutos, je suis tombé sur des ados qui ont pensé à changer la date de leur téléphone portable pour que le certificat soit plus reconnu au niveau du contrôle parental.
Eh oui.
Ben oui.
Nos ados ont du talent.
Ben oui, c'est pas compliqué. Et nous, on sait pourquoi ça marche. Eux, ils ont juste trouvé l'info sur Internet et par le bouche à oreille. Donc ce genre de contournement, évidemment, ça va se savoir et se répandre. C'est tout. C'est une idiotie, ce genre de contrainte, le mettre au niveau légal. Et en fait, il n'y a pas d'outil pour gérer ça parce que juste, on n'a rien prévu. Moi, j'ai déjà défendu ça à plusieurs reprises ici. Ça fait des années qu'on aurait dû avoir, et pourquoi pas, une application sur une carte d'identité électronique pour juste dire oui, l'utilisateur a plus que tel âge. Point.
On va pas ressortir la vieille histoire de la carte d'identité belge avec sa puce.
Oui, qui fonctionne du coup. Mais voilà. Et donc, après, dans le lot des contrôles d'âge, il y a Discord, donc le système de chat qui est utilisé aussi beaucoup par les joueurs, qui a temporisé en disant ouais, en fait, on va pas faire le contrôle d'âge tout de suite. Ils savent pas trop comment le mettre en place. Et ça fait grogner parce que c'est compliqué de demander à des mineurs leur papier d'identité aussi. C'est vraiment un sujet complexe.
Ça part en fait d'une intention louable et bon, et sortir le cliché, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais on y est quand même.
Sauf que je suis pas d'accord. Je ne trouve pas que ce soit louable de dire il faut limiter les mineurs plutôt que réglementer les plateformes. L'objectif devrait être on bride les plateformes. Il faut arrêter. Les plateformes sont addictives. La solution, c'est on va empêcher les mineurs d'aller sur les plateformes addictives. La solution, ça serait pas plutôt d'interdire aux plateformes de mettre en place des systèmes addictifs. Je sais pas, hein, je dis quelque
chose
au hasard.
C'est encore plus compliqué à prouver qu'un contenu est addictif. Ça promet de longues batailles devant les tribunaux.
Tout à fait.
Parce que ce qui se passe d'ailleurs aux États-Unis, on en a parlé lors de la dernière émission.
Oui, mais c'est la seule solution, c'est commencer à brider, contrôler les plateformes, au lieu de les laisser un Far West où elles font ce qu'elles veulent. Mais ça nécessite du courage d'aller face à des gens qui ont beaucoup plus de pognon que des États.
En parlant de Far West, on va rester aux États-Unis. Donc on sait que les autorités américaines n'ont jamais vu réellement d'un bon œil les législations concernant le respect de la vie privée en Europe. Et là, bon, Trump, on est dans la décomplexion la plus totale. Donc là, il part ouvertement en guerre contre les législations telles que la plus emblématique, le RGPD.
Pas que. Notamment. Attention.
Notamment. écoutez bien ce que je dis, monsieur Pierre.
Oui, oui. Il s'attaque donc au RGPD parce que le RGPD, je cite, impose des restrictions inutiles et contraignantes en matière de traitement des données, des exigences en matière de flux transfrontaliers de données. C'est... La fin est importante. Flux transfrontalier de données, c'est ça qui leur pose problème. Et en fait, le RGPD, c'est parce que ça en fait partie. Il s'oppose aussi au DSA, au DMA, donc les Digital Service Act et Digital Market Act, donc les dernières réglementations qui ont effectivement pas mal bridé les plateformes en Europe. Et enfin, il s'oppose tout simplement à tout ce qui est projet autour de la souveraineté numérique. En gros, les États-Unis ont créé une solution où l'Europe est devenue dépendante des États-Unis d'un point de vue technologique et ils veulent absolument que ce soit maintenu dans cet état-là.
Le problème, c'est que ça commence à se voir et l'attitude du gouvernement américain met justement le sujet sur la table.
Tout à fait. Donc là,
c'est un contre-temps.
Ils ont ordonné aux diplomates américains de faire du lobbying contre toute tentative de réguler les entreprises technologiques et donc toute initiative de souveraineté de données, de contrôle des données en Europe.
On connaît la subtilité du pouvoir américain. Bon, là, c'est quand même gros
là,
savoir.
Là, c'est un record de subtilité.
Oui, là, c'est limite du, je pense, contre-productif.
À voir.
On l'espère.
On peut espérer. Mais...
Parlons de RGPD, un projet de simplification du RGPD est dans les tuyaux et l'ONG NoIB affirme que c'est pas réellement conforme à l'objectif, Pierre.
Non, quel est l'objectif, voyons. Il faut déjà peut-être commencer par se poser la question. L'objectif, officiellement, ça a été de dire oui, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre le RGPD quand même.
C'est obligé à mettre une pop-up nous demandant d'accepter les cookies.
Ce qui est faux, accessoirement, hein, ça n'a jamais
obligé. C'est quand même la lecture la plus courante.
Oui, oui, mais c'est une lecture complètement caricaturale qui a été faite justement pour faire croire que c'était un mauvais règlement. Attention, je peux vous donner des exemples de sites qui n'ont pas cette pop-up. Et c'est pas des bugs, c'est juste que le RGPD est très clair. Si vous avez besoin de cookies pour des raisons techniques, vous avez le droit, vous n'avez même pas à demander l'accord. C'est si vous avez des cookies pour du tracking, pour pister, fliquer les gens, là vous devez demander l'accord.
C'est précisément ce que j'ai dit, Pierre.
Oui, sauf que... Non, t'as pas précisé cette distinction.
Si, j'ai dit les cookies qui vous tracent, monsieur.
Il n'y a pas que ces cookies-là.
Il faut qu'on écoute ce qu'on dit, monsieur.
Il y a aussi les cookies vers des services tiers qui permettent l'utilisation juste de services tiers sur un site web.
J'en profiterai pour faire un peu de pub pour un add-on sur Firefox qui s'appelle Consent-O-Matic et qui permet de dire non aux cookies. Ça a été fait par mes collègues de l'université d'une université danoise et ils ont enregistré 800 formulaires pour dire non aux cookies automatiquement. Et ouais. Vous voyez automatiquement le truc dire non. Ça peut aider à naviguer un peu plus fluide.
C'est parce que je connaissais une extension qui s'appelle I don't care about cookies qui faisait exactement l'inverse.
Oui, ouais. Les extensions qui font l'inverse sont apparues beaucoup plus vite et ont eu beaucoup plus de bruit, étonnamment. On se demande pourquoi. Et donc, pour revenir à le NoYB, qui est une association de défense de la vie privée, a fait un sondage auprès des DPO. Donc, les DPO, c'est les gens responsables du RGPD au sein des entreprises, enfin responsables de la mise en œuvre du RGPD au sein des entreprises.
Qui n'aiment pas trop le RGPD, je pense. Tu me diras, ça leur donne du travail.
C'est leur taf quand même. Et ne pas aimer le RGPD, les entreprises souvent n'aiment pas le RGPD parce que ça les bride. Mais donc, il y a eu des questions pour leur demander qu'est-ce qui vous provoque le plus de travail dans le RGPD et pour voir est-ce que ça correspond avec ce qui est envisagé par la Commission européenne. Eh bien, pas du tout. En fait, ça ne marche pas. La Commission européenne ne s'intéresse pas à ce qui pose vraiment problème pour les DPO. C'est juste un affaiblissement du règlement de la vie privée. Surprise. Ou pas.
Ou pas. Wikipédia, victime de l'IA et d'hallucinations à la traduction.
C'est tout étonnant. À fait. Pour changer, c'est vrai qu'il n'y a aucune... Les IA n'hallucinent pas et ne font pas n'importe quoi dès qu'on les pousse dans le bon sens. Et donc oui, les IA génératives posent problème pour la Wikipédia anglophone. Alors, jusqu'à maintenant, la version francophone disait que l'utilisation de l'IA générative était vivement déconseillée. Et si c'était pour la traduction, il fallait préciser que l'IA avait été utilisée pour la traduction. Le problème, c'est que il y a une association de traduction qui a commencé à intervenir massivement sur Wikipédia avec des outils de traduction et qui ont fait des traductions notamment d'avoir traduit plus de 5000 articles, mais c'est des traductions de mauvaise qualité avec des erreurs, des contresens, c'est pas bon, c'est la différence, je veux pas balancer,
mais il me semble que c'est la Wikipédia italienne, je crois, à un moment, qui avait été nourrie comme ça, c'était une des Wikipédias qui avait le plus d'articles, parce que en fait, ils créaient plein d'articles, soit des ébauches, soit des traductions automatiques.
Voilà.
Parce que c'est pas nouveau, hein, la traduction automatique, voilà, ça a quand même 20, 25 ans, c'est pas...
C'est ça, mais après, l'IA l'a rendu plus accessible, mais au détriment de la consommation d'énergie, mais c'est un détail dont on ne parle pas.
Les 5 questions que vous êtes toujours posées sur le logiciel libre, c'est après un premier morceau de musique. Nous allons écouter Open Frequency Collective, Black Mountain Howl. Vous écoutez les codes Igloo sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslibre.com.
Scream!
C'était Open Frequency Collective, Black Mountain Hall. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus. Et ben c'est l'heure d'une nouvelle séquence, la première de Marie. Donc tu vas nous poser 5 questions, donc qui correspondent aux 5 questions qui ont reçu le plus de voix lors de la conférence que tu avais animée. Donc bon, on va les prendre par ordre de voix. Hein. C'est bientôt les élections en plus. Donc on t'écoute pour la première question.
Tout à fait. Donc avec 61 votes, la première question était « Peut-on vivre du développement d'applications open source ?» On rappelle que l'audience était une majorité de développeurs puisqu'on était à DevLille.
Et là, évidemment, on se tourne vers Pierre. Moi, je ne suis pas développeur, je travaille sur des logiciels libres. Donc d'un côté, ça fait vivre des gens, mais la question effectivement la plus sensible, c'est bah, vous ne vendez pas de licence, alors du coup, comment vous gagnez de l'argent en développant ?
Combien Google vend de licences par an en chiffre d'affaires ? Ça représente combien pour eux ? Combien vend Meta de licences par an ? Ça représente combien dans leur chiffre d'affaires ?
Ils vendent du service.
Ils vendent du service. Ils vendent soit l'hébergement de leurs applications. Alors, leurs applications sont propriétaires, fermées. Mais c'est un métier d'héberger et de faire fonctionner une application. Et
mais
en fait, c'est.
Ils font du logiciel, ils mettent pas à disposition de logiciels libres.
Non, tout à fait. Mais j'ai pris les exemples pour montrer que la question du prix de la licence, c'est secondaire. Et en fait.
Quand ton métier est distribuer du logiciel, est-ce que leur métier n'est pas d'en distribuer ?
Ils vont utiliser
du logiciel qui est sur leur serveur.
Tout à fait. Ben, si on prend un exemple de logiciel distribué, je vais prendre Public, qui est un logiciel qui est utilisé par de nombreuses collectivités en France pour les relations avec les citoyens. C'est un logiciel entièrement libre. Il n'est pas interdit à une collectivité de prendre le logiciel, de l'installer sur ses serveurs, de le faire tourner et ne verser 0 centime à Entrouvert, l'entreprise qui développe ce logiciel en logiciel libre. Mais je pourrais très bien prendre ce logiciel, l'installer sur un serveur, aller voir des collectivités en leur disant « Coucou, moi si vous voulez, je vous l'héberge, je vous l'offre, pas de problème. » La différence, et c'est en ça que l'entreprise Entrouvert a pu se développer, ils ont une putain d'expertise, c'est une équipe complète dédiée à ce logiciel-là.
Donc, sur du logiciel métier, je suppose que c'est quand même un gros logiciel. Une prise en main qui est quand même pas, je pense, évidente.
Le logiciel n'est pas très compliqué à utiliser, finalement, mais il y a toute une phase d'accompagnement des collectivités, il y a tout un travail à faire pour être connu sur le marché, pour répondre aux appels. C'est un vrai métier de ne serait-ce que vendre ce logiciel-là, en fait.
Donc, c'est quand même un des plus connus, c'est le support au logiciel que l'on développe.
C'est ce que je donnais. On peut aussi prendre l'exemple d'Oslandia, qui développe QGIS. Alors, c'est encore un logiciel métier, c'est parce que c'est les plus gros exemples qu'on peut trouver.
Alors, pour un logiciel qui est utilisé par le commun des mortels, Firefox, LibreOffice, un logiciel qui ne nécessite pas un support particulier pour le particulier. Alors, est-ce qu'on va dire, on fait un peu comme Microsoft à la belle époque, c'est-à-dire, je vous laisse plus ou moins les pirater sous le manteau. Alors, pas Windows, parce que c'était vendu d'Office. Mais Office, justement, qui est vendu avec, pas forcément avec Windows, mais nombreuses personnes avaient Office sur leur PC, le payaient pas, parce que grosso modo, c'était facile à pirater et il n'y a pas de contrôle qui était fait sur les particuliers. Par contre, les entreprises étaient obligées de payer, sinon elles se faisaient contrôler, et en plus les salariés avaient l'habitude d'utiliser Office au travail, étaient habitués à cet outil, donc ils utilisaient le même à la maison, et c'était un peu un cercle vicieux, donc ouvertueux si on se place du point de vue de Microsoft. Les gens, ils voulaient utiliser au travail ce qu'ils avaient à la maison.
Le problème...
J'ai déjà eu ça comme argument pour une migration, un remplacement d'outils sous Linux par des outils sous Windows. Ils veulent voir au travail ce qu'ils ont à la maison.
Au travail, aider les études. Hein. Je suis dans le milieu universitaire.
On pourra
en reparler.
On a déjà parlé dans cette émission du fait que Microsoft file des doses gratuites. Ouais. C'est filer des doses comme un dealer. C'est clairement leur fonctionnement. Puisque les gens ne veulent plus apprendre à utiliser un outil. Ils veulent plus apprendre à apprendre. Ils veulent apprendre juste un outil et puis comme ça bouge plus.
Je pense que là tu fais un petit peu le c'était mieux avant, mais
non,
les gens.
Il y a aussi un
utilisateur lambda. Enfin, en gros, t'as quand même lors de la vague d'informatisation des années 90,
je suis un peu vite.
Les gens ils subissaient, Ils apprenaient parce que il fallait bien pour le travail, mais qu'ils avaient vraiment envie d'apprendre.
On a aussi rendu ça beaucoup plus difficile à apprendre. L'informatique aujourd'hui est devenue clairement incompréhensible pour les néophytes par rapport à ce qu'elle était avant dans les années 90, parce qu'on a créé des interfaces qui ne sont plus lisibles, on a supprimé ce qui était un cadre compréhensible. Ne serait-ce que quand tu démarres un ordinateur, t'as plus une explication, t'as plus une logique qui est suivie sur tout le système. T'as plus d'apparence centralisée, t'as plus tout ça. Ça a été détruit méthodiquement par les applications web notamment. Et les applications web, justement, c'est ce qui permet le plus facilement de vivre du développement d'une application, que ce soit commerciale ou finalement libre. Parce que à cette question-là, comment vivre du développement de LibreOffice ? C'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Et peut-on vivre du développement d'applications open source ? C'est là où la question, il y a un trou. La question, elle n'est pas bonne. En fait, c'est du développement d'applications, c'est trop précis. Qu'est-ce que c'est une application ? C'est ça le problème. Une application, si c'est QGIS, public, le noyau Linux, ces applications-là, ça a été des succès.
Mais par contre, il ne faut pas surinterpréter la question, je pensais. Du logiciel open source, du logiciel libre. Je pense que
tu surinterprètes. Mais non, mais justement, et là-dessus, par contre, on tombe sur un vrai problème. Si on prend le cas d'OpenSSL, si on prend le cas de Log4j, ce sont pas des applications, ce sont des composants logiciels libres.
Ils sont dans vos logiciels usuels. Ils sont utilisés par vos logiciels usuels.
Non. T'es dans l'euphémisme le plus total. À ce niveau-là, ces deux composants-là, s'ils disparaissaient, si du jour au lendemain ils étaient retirés de tous les ordinateurs du monde, il y aurait plus d'internet, le monde serait à l'arrêt. Et ces logiciels-là sont développés par des bénévoles qui travaillent uniquement sur leur temps libre, et toutes les entreprises qui se font des milliards ne reversent pas un centime pour ces logiciels-là, et c'est un vrai sujet.
Sur OpenSSL, c'est juste que le web, il serait un petit peu moins sécurisé.
Ah non, le web tournerait plus, parce que tous les services communiquent entre eux avec OpenSSL aussi. Tu pourrais plus communiquer avec tes bases de données, tu pourrais plus communiquer avec tes serveurs, enfin, ça serait l'effondrement total. Ces composants-là sont utilisés partout, par tout le monde, mais à personne qui veut payer. Ça, c'est un vrai sujet. Effectivement, comment peut-on faire pour que les gens... Et en fait, c'est pas à l'utilisateur lambda de payer ça, ça serait aux entreprises de payer réellement ce qu'elles utilisent en libre et en open source, mais ça,
il y a des projets, alors je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup, mais il y a pas à dire de mécénat, mais des entreprises qui ont intérêt à ce que le logiciel libre fonctionne et qui embauchent des développeurs, qui payent des gens qui, en interne, pour travailler sur Debian, pour travailler sur différents projets.
Alexandre, te souviens-tu nos cours d'économie de première année ?
Oui.
Voilà. Il n'y a pas d'intérêt pour ces entreprises à le financer, mais puisqu'elles vont se dire que d'autres vont financer.
Ça se fait,
oui. Mais on est dans un monde de capitalistes. Il ne faut pas payer ce qu'on peut ne pas payer.
Autre question.
C'est triste,
merci,
là.
Merci pour la
elle
question,
est triste,
Pierre. La trouves un peu étrange, c'est vrai. Firefox est-il vraiment libre ? Je pense que
oui,
peut-être la question
point.
Du fait que, voilà, que typiquement, sous Debian, il y avait une version iSwizzle pour ne pas utiliser la marque déposée Firefox.
Mais voilà, donc la question n'est pas précise. Qu'est-ce que Firefox ? Est-ce que c'est le logiciel ou est-ce que c'est le nom et l'icône ? Effectivement, il y a eu une controverse pendant un certain temps, et il y a toujours cette question-là. Si on prend... Je vais pas retrouver les noms, parce que je viens d'y penser seulement maintenant. Firefox lui-même, maintenant, ils ont levé un certain nombre de restrictions, mais le logiciel est libre. Par contre, l'utilisation de la marque et du logo, comme toute utilisation de marque et de logo, c'est soumis à condition. Vous ne pouvez pas prendre le logiciel Firefox, faire n'importe quoi dedans, et dire « Tenez, voici Firefox ». Ce serait... une violation de la marque et du logo, mais ça n'en fait pas un logiciel non libre. Le logiciel est libre, c'est juste le nom lui-même, c'est une marque.
C'est pareil avec Linux d'ailleurs. Une marque
tout à fait. Linus Torvalds ne voulait pas déposer le nom Linux, et quelqu'un lui a forcé la main, justement pour protéger de ce risque-là. Le nom du logiciel est détaché finalement de ce qu'est le logiciel lui-même. Et alors, j'ai plus les noms des logiciels en question en tête, mais Firefox est vraiment libre. Il y a des versions ultra spécifiques de Firefox qui existent, notamment pour les gens qui veulent faire revivre des Mac antiques. Ces versions-là n'ont pas le droit de s'appeler Firefox parce qu'il y a un certain nombre de changements qui sont faits par rapport au logiciel lui-même. Eh bien, c'est pas grave, ces systèmes-là ne s'appellent pas Firefox, mais ça reste toujours Firefox comme logiciel, et Firefox est bien un logiciel libre.
Je t'ai volé ta question, Marie, je suis désolée, comme un gouniafier. Je te laisse poser la troisième.
Je vous en prie.
Je t'ai emporté dans mon élan.
Donc, la prochaine question, la question sur Firefox, c'était 58 personnes, et la prochaine, c'est 49 personnes qui l'ont posée avec « Est-ce qu'un logiciel libre, entre guillemets, développé par une seule entreprise, est vraiment libre ?»
Et ça, on en parle souvent, Pierre.
Ouais, moi, je suis d'avis que non, c'est effectivement. Non, la liberté
alors
elle-même...
Que, du coup,
non, c'est compliqué, en fait,
cette
question.
C'est compliqué parce que ça dépend des... Il y a des cas où c'est vraiment drivé uniquement par l'entreprise. Tu cites l'exemple de logiciel pour les mairies qui est développé par Entrouvert, grosso modo.
Oui.
Il y a à peu près... il y a peut-être des informaticiens dans les DSI des mairies qui apportent des modifications. Mais en gros, en termes d'entreprise, il n'y a que Entrouvert qui y contribue.
Mais il n'y a jamais eu de refus des contributions externes.
Est-ce qu'il y en a beaucoup ?
Il y en a eu de la part des mairies, tout à fait. Il y a eu des contributions, elles ont importé de modules, c'est arrivé. Donc ce n'est pas le pire exemple qu'on puisse trouver. Je pense qu'un exemple bien pire, on peut parler de l'histoire de WebKit. WebKit, c'est le moteur d'affichage de pages web de Safari et historiquement de Google Chrome. Lorsque Apple, il y a plus de 20 ans, s'est dit « Tiens, on a besoin de créer notre navigateur web », plutôt que de tout recréer à partir de zéro, ils se sont dit « On va prendre le moteur de page web de KDE, donc qui était libre, et on va créer WebKit à partir de ça ». Sauf que c'était libre, donc ils ont été obligés de donner le code régulièrement. Mais ils l'ont fait, ils étaient les seuls à le développer, personne n'avait accès à l'outil de gestion de bugs, personne n'avait accès au code source en cours de développement, il y avait juste ponctuellement « Tenez, voici le code de la dernière version ». Ça respectait la liberté d'utilisation, la liberté de modification, la liberté d'étude, la liberté d'exécution. Les quatre libertés fondamentales étaient bien respectées. Mais personne ne pouvait contribuer, personne ne pouvait réutiliser ça en dehors de Google. Les premiers à avoir vraiment fait ça, ça a été beaucoup plus tard, quand il y a eu un vrai effort d'ouverture de WebKit auprès de l'extérieur. Donc, en fait, la question, est-ce qu'un logiciel libre développé par une seule entreprise est vraiment libre ? Oui, c'est libre, mais est-ce que c'est ouvert ? En fait, libre et ouvert sont complémentaires.
C'est-à-dire ouvert, et puis dans libre, il y a le fait que c'est libérateur hein, de l'utilisateur, et je pense à l'exemple d'Android qui a été repris pour faire Lineage, n'est-ce pas ?
Notamment,
oui. Et quand j'ai vu des gens utiliser Lineage, et sur Lineage, parfois, au détour d'une option, il y a marqué « Est-ce que vous voulez que Google, ou est-ce que vous voulez activer tel Google truc ?» Et je me dis « Mais ça n'a rien à faire là. » Et en fait, par défaut, Google a mis pas mal de choses estampillées Google dans le code que les développeurs de Lineage n'ont pas eu toujours le temps d'enlever. Et ça, c'est pas forcément...
Le sujet d'Android sera évoqué beaucoup plus longuement d'ici quelques semaines dans une déguicalisation. Il y a un travail d'enquête en cours.
Une série de déguicalisations. Je pense que, en plus, tu contactes les autorités compétentes.
J'emmerde du monde.
Ah, je te reconnais bien là, Pierre. Est-ce que tu passerais à la question suivante ?
Mais tout à fait. Alors, j'aime beaucoup cette question.
On l'apprécie aussi.
Ah, avec 46 voix, pourquoi les logiciels libres sont-ils presque tous moches ?
Alors, à ça déjà, première question, qu'est-ce que le beau ? Deuxième question, en fait, la question est à comprendre, c'est en fait, quelle est la définition de moche ? Parce que pour moi, il y a deux aspects déjà là-dessus, et ça pose problème du coup pour répondre à la question.
Alors.
La beauté esthétique ou la beauté de l'œuvre, parce qu'un logiciel c'est une œuvre de l'esprit. Donc c'est
oui,
déjà.
Oui, je pense que c'est moche d'un point de vue de l'interface. Puis, alors,
voilà,
je pense pas
donc
que c'est moche
on est sur les questions d'interface. Et là on est.
C'est de l'amour quoi. Enfin...
Alors et là on est sur deux problèmes. Déjà on a eu un mouvement depuis, j'en parlais lors d'une des questions précédentes, on a un mouvement depuis 20 ans qui fait que. On a démoli les règles de conception des applications et où maintenant c'est. YOLO, tu fais ce que tu veux, tu mets des trucs dans tous les sens, et il faut que ce soit joli, il faut pas que ce soit cohérent, il faut pas que ça soit intégré au cadre. Il n'y a pas les règles de développement d'application. Même Apple, pardonnez-moi l'expression, même Apple se torche avec ses propres règles de développement d'interface.
C'est un concept qui est ancien, Pierre. Il y a 20 ans, on aurait dit la même chose.
Sauf qu'il y a 20 ans, je le comprenais beaucoup plus. Parce qu'il y a 20 ans, effectivement, les règles de développement et les outils de l'époque, c'était franchement beaucoup moins beau que maintenant. Par contre, maintenant, je suis désolé, quand tu prends une application KDE ou GNOME moderne, je vois pas ce qu'elle a à perdre. Enfin, il n'y a pas à avoir honte par rapport à des applications Apple ou autres. Même Apple ne respecte pas ses propres règles. Si on prend une application Apple de maintenant, elle est à vomir d'après le designer d'Apple d'il y a 10 ans. Parce qu'il ne respecte pas les règles, parce qu'il y a de la transparence à des endroits alors que ça rend les choses incompréhensibles, etc.
Après, si je prends l'exemple de LibreOffice, excuse-moi, mais Microsoft Office et LibreOffice, on sent la différence de génération.
Première question, peut-on vivre du développement d'applications open source ? J'avais dit que le cas de LibreOffice était compliqué. Ben justement, il n'y a pas de financement, il n'y a rien. Et on arrive sur le dernier point sur ça. Il faut des designers, il faut des gens avec des compétences au-delà du développement de logiciels, il faut des ergonomes.
Sauf que le logiciel libre, ça attire surtout pour ce qui est vraiment la contribution des développeurs.
Voilà.
C'est un constat qui est ancien, qui est connu. Et les ergonomes, les traducteurs, les traductrices, c'est quelque chose de précieux pour un projet de logiciel libre.
Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de KDE et GNOME, parce que ces deux projets-là ont des ergonomes, ils ont des gens qui ont travaillé, qui ont réfléchi, ils ont des graphistes, ils ont des gens qui ont... Alors, je me souviens surtout à l'époque de la sortie de KDE 4, parce que j'étais beaucoup là-dedans, c'était il y a 20 ans, il y a des gens qui ont réfléchi quand même pour faire un ensemble cohérent graphiquement, et même avec la conception sonore. Ils ont voulu créer un thème complet.
KDE et GNOME ont quand même bien progressé au niveau graphique. Si c'est les applications intégrées, oui. Après, même l'application intégrée, t'as le cœur de la distribution qui est plutôt joli. Après, les logiciels qui sont développés avec GTK, avec Qt, je dirais qu'au niveau interface, il y a à manger.
Après, je peux te retrouver du logiciel propriétaire qui va être hideux. Moi, si tu veux, je te montre le logiciel propriétaire que j'utilise pour faire des planifications de navigation en aéronautique. Il est moche, hein ?
Oui. Là, c'est aussi les logiciels un peu plus spécifiques.
Voilà. Bah, c'est juste que c'est des logiciels qui n'ont pas comme cœur de métier de faire quelque chose de joli. Et du coup, bah, on utilise les composants standards. On utilise des menus, des barres d'icônes, et ça fonctionne. C'est juste ça aussi. À un moment, la finalité du logiciel compte.
Alors, la dernière question est un petit peu difficile.
Avant, je voulais peut-être ajouter quelque chose. Oui. Je pensais aussi au fait que dans le logiciel libre, j'allais dire, on n'a rien à vous vendre, hein, donc on va pas rajouter des petits feux d'artifice qui vont vous attirer l'œil. On va se privilégier la fonctionnalité. Je pense par exemple à un logiciel comme VLC qui a plein de fonctionnalités que beaucoup d'autres logiciels n'ont pas. Pourtant, c'est pas.
Je connais pas trop d'alternatives à VLC. Je pense que sur leur créneau. Alors après, le créneau a tendance un peu à se rétrécir. Ben,
si tu compares VLC à Windows Media Player il y a 20 ans, Windows Media Player, il y avait une interface qui pouvait faire beaucoup plus jolie. Mais l'interface ne respectait aucune règle. Parce que c'était censé ressembler à un lecteur multimédia de salon ou des trucs comme ça, par exemple.
Et on discutait de cette question hier, et je me disais qu'il y a une espèce de fast fashion dans le logiciel privateur. Dans les sites web aujourd'hui, c'est toujours des choses avec plein de scrolling infinis, des petits trucs qui tournent, des machins.
Faut pas oublier les shots de dopamine.
Nous, on n'a pas, enfin, le logiciel libre n'a pas de shot de dopamine à vous vendre, donc on va pas vous mettre des choses qui sont particulièrement inutiles juste pour attirer l'œil et voilà. Donc ça peut être ça. Enfin, je me pose parfois la question de est-ce que l'esthétique est dans les valeurs du libre, ou est-ce que la majorité des gens développant le libre mettent l'esthétique ou les logiciels esthétiques en valeur. Par exemple, un logiciel comme Elementary OS, la distribution Linux Elementary OS, n'est jamais mise en valeur parce que, c'est pas la plus stable, mais c'est aussi une qui privilégie l'aspect esthétique par rapport à d'autres choses. Et ça va rarement être les logiciels dont on va parler en premier pour le grand public.
Bah là, j'ai été surpris, on en parlera peut-être plus longuement dans une autre émission, parce qu'on n'aura probablement pas le temps sur l'émission d'aujourd'hui. Il y a eu, je ne sais plus quelle ville, c'était une mairie qui a parlé, c'est passé sur différents sites, qui a parlé du fait de ce qu'ils essayent de pousser pour l'utilisation du logiciel libre. Et la distribution Linux qu'ils ont choisi d'utiliser, c'est Zorin OS, qui est une distribution très peu connue, mais justement qui se focalise sur l'esthétique et sur le fait d'avoir une esthétique proche de Windows.
Oui. J'aimerais bien avoir des retours là-dessus, d'ailleurs, parce que ça peut parfois... le fait que ça ressemble exactement à ce que les gens ont connu, à l'esthétique qu'ils connaissent, ça les rassure.
C'est un point de vue. C'est compliqué, cette question-là. Honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse, je pense. Malheureusement.
Ah, la dernière question.
Est-ce qu'on a le temps?
Rapidement. De toute façon, la réponse est rapide.
J'aime beaucoup cette question aussi. Comment fais-tu pour gérer vie active, vie associative et vie privée?
J'ai envie de répondre comme on peut.
Ouais, comme on peut. Là, il n'y a pas le choix.
C'est une question d'organisation personnelle, de gestion des priorités.
Depuis que j'ai eu ma fille, mes contributions au logiciel libre ont baissé sur mon temps libre.
L'arrivée d'un enfant, et que... on a moins le temps, la vie familiale prend plus de temps.
Si j'arrêtais l'émission de radio, je pourrais passer plus de temps à contribuer. Voilà, c'est des compromis.
C'est des choix.
Mais après,
c'est des choix.
Faire votre émission de radio, c'est aussi contribuer.
Bah voilà, oui.
Dévalorisez pas cet aspect de la
distribution. Je dévalorise pas, mais c'est contribuer directement à des logiciels. J'aurais plus de temps si je n'avais pas l'émission. Ouais. C'est un fait.
Après, je ne sais pas si on a encore le temps d'ajouter quelque chose.
Très vite.
Je pense que c'est une équation qui doit être résolue individuellement. Moi, j'avais plutôt un aspect académique dans mon profil et donc je suis allée à l'université. À l'université, j'ai réussi à négocier plus de temps et à avoir un employeur qui est un peu aligné avec mes valeurs. Donc, dans le cadre du travail, parfois...
Mais au cas duquel, il ne faut pas dire du mal de la première fortune...
Suédoise. Oui, ça, on en parlera plus tard. Je pense que c'est une petite digression.
Merci Marie, merci Pierre pour toutes les réponses. Je pense que c'était des échanges qui étaient très très intéressants, de fort bonne tenue. Et pour fêter ça, on va écouter un deuxième morceau de musique. On va écouter Mickey MacDonald, Turn Toward Me. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslib.com.
C'est pas mal.
Turn towards me.
C'était Mickey McDonald, Turn Towards Me. Vous écoutez l'Écho des Gnous sur Radio Campus 106,6. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation. Et aujourd'hui, c'est droit d'auteur en folie. Youhou, youpi tralala.
Yeah. Voilà, donc on parle beaucoup de droits d'auteur en mal, parce que franchement, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles sur ça ces derniers temps. Et donc, on va en parler encore plus en mal que les fois précédentes, parce qu'il y a eu encore pire comme nouvelle, c'est parce que c'était possible. Donc, rappel, le directeur général de la Confédération internationale des éditeurs de musique a décrit l'année dernière, en septembre 2025, il a parlé du plus grand vol de propriété intellectuelle de l'histoire. De quoi parlait-il à votre avis ?
De Napster.
Belle tentative. Le plus gros vol de propriété intellectuelle de l'histoire.
BitTorrent.
Belle tentative. Marie.
Je sais pas, Microsoft. Un truc relié à Microsoft, peut-être.
Ah, c'est pas très loin. Moins loin. Non, arrête avec ces trucs qui n'existent plus. Donc non, le plus grand vol de propriété intellectuelle de l'histoire, pour lui, c'est la manière dont les éditeurs d'intelligence artificielle ont entraîné leur modèle génératif. C'est pas le premier à le dire, mais je trouve que c'est une belle description. Et j'aimerais bien que tous les gens qui utilisent régulièrement des IA génératives, des modèles de langage et autres, aient ça en tête. Vous êtes en train d'utiliser quelque chose qui est le plus grand vol de propriété intellectuelle de l'histoire. Point.
Et les connaissances, c'est du coup le point de départ pour inventer une nouvelle taxe.
Eux sûrement, mais ça reste un gros problème. Alors, les sujets ont longuement été évoqués concernant les IA anglo-saxonnes, notamment c'est le New York Times qui avait de mémoire fait des recherches parce que ChatGPT était capable de ressortir des articles du New York Times verbatim, ce qui est un problème. Je vous rappelle, justement, c'est la différence entre l'apprentissage d'un humain et l'apprentissage d'une IA. L'humain, il aura beau lire 10 fois le texte, il va probablement pas être capable de le réciter par cœur 5 ans après. Et accessoirement, il sait que s'il le récite par cœur, il est en train de faire une connerie, parce qu'il n'a pas forcément le droit. L'IA, elle sait pas qu'elle n'a pas le droit de réciter par cœur. Parce que c'est un peu la base, elle doit reprendre des morceaux, c'est assez compliqué. Et donc là, en France, Mediapart s'est amusé, avec l'aide d'un chercheur, à tester le modèle Mistral Large 3, donc de l'entreprise française Mistral, et ils ont réussi à lui faire recracher des morceaux de Harry Potter à l'école des sorciers, Le Trône de Fer, ou encore 1984 de George Orwell.
Ce qui est une belle mise en abîme.
Tout à fait. Et donc, Mistral indique que... Ouais, mais en fait, c'est un principe de réalité et les contenus en question sont particulièrement populaires et répliqués à de nombreuses reprises sur Internet.
Donc on n'est pas les seuls à le faire.
Donc c'est normal. Voilà.
Humain.
Voilà, je trouve que c'est un bon début pour parler
des niveaux école maternelle quand même.
Réciter 1984 à l'école maternelle.
Ouais. Excuser en disant c'est lui qui a commencé.
Ah oui, on est sur ce niveau-là. On va continuer sur le droit d'auteur. Je voudrais faire un petit rappel avant la suite pour bien expliquer ce qui va suivre. Est-ce que, Alexandre, tu sais rapidement, ou Marie, dire quelle a été la raison de l'apparition de la licence GPL3 par rapport à la GPL2? Ok, un en moins, Marie.
Je sais pas, pour moi, la GPL, c'est le... Vous savez, le truc qu'on met dans
le pétrole liquéfié. Oui.
Alors, non, ça, c'est en train de disparaître quand même. Après, on est près de la Belgique, si il est pas cher là-bas. Mais donc, non, la GPL, c'est la licence General Public License, la licence principale du projet GNU, et la première licence à avoir défini formellement le principe de logiciel libre.
Je tiens surtout que le passage à la V3 a fait l'objet de vastes polémiques au sein des projets libres.
Tout à fait.
Et je ne sais plus pourquoi.
Et pourquoi ? Parce que la V3 pose problème à des entreprises mineures. Et donc là, j'ai encore eu un exemple.
Charbonnage de France. Je suis à du bassin minier.
Oui, voilà. Donc là, j'ai encore eu un exemple il y a quelques semaines à mon travail. Alors, je ne dirai pas où je travaille, ni quel est le client qui a demandé ça, mais qui a commencé à se plaindre que, dites, là, le bootloader, vous utilisez Grub, il est sous licence GPLv3, et ça ne nous va pas. On est embêté. Est-ce que vous pouvez vous arranger pour que ce soit un autre logiciel sous une autre licence ? Alors, donc, À quoi que ça sert la licence GPL-V3 ? Pourquoi des entreprises aujourd'hui gueulent encore contre ça et vont gueuler encore contre ça éternellement ? Et pourquoi du coup c'est la meilleure licence du monde ? Eh bien, la licence GPL-V3, elle interdit explicitement la TiVoisation. La TiVoisation, c'est du nom de les TiVo, c'était les magnétoscopes avancés, on va dire, pour qu'on mettait sous les télévisions pour enregistrer des émissions et les ressortir. Et il y avait eu un gros procès parce que une entreprise avait utilisé du logiciel libre pour faire son magnétoscope numérique et il y avait un problème, c'était qu'elle respectait la licence tout en ne permettant pas d'étudier le fonctionnement du logiciel puisque il y avait un trou. Et la licence GPL-V3 a bloqué ce trou. Désormais, il n'est pas possible de... Si on met un logiciel libre à disposition des usagers, les usagers ont le droit de l'étudier et de le modifier. Point. La licence
C'est-à-dire GPL... C'est-à-dire que le Linux qu'il y a dans ma box, en théorie...
Linux est-il sous licence GPL-V3 ?
Et non.
Non, c'est Linus Torvalds n'a jamais voulu la version 2 ou supérieure. Mais par contre, tu peux très bien faire les demandes et de toute façon, tous les FAI en France te donnent accès aux différents logiciels qui ont été utilisés pour faire la box. Ça ne t'autorise pas à flasher la box, mais ça te permet de recompiler le logiciel comme tu veux. Et si tu as ton petit fer à souder, ton petit kit de debug, tu peux flasher la box. Mais bonne chance. Pourquoi que je fais ce rappel sur les licences ? On va parler d'une grande nouveauté qui est apparue cette semaine. Youhou ! C'est... Après le greenwashing, le nouveau washing, c'est le license washing. En as-tu entendu parler, Alexandre ? En as-tu entendu parler,
Marie ? C'est trop nouveau, Pierre.
C'est trop nouveau, ça date de cette semaine. Alors, on va parler d'un petit logiciel qui s'appelle Shardet. Alors, Shardet, c'est une bibliothèque en Python qui a été créée à la base. C'est un port d'une bibliothèque de Mozilla. Et c'est très pratique, ça permet de détecter l'encodage d'un texte. Je vais passer sur les détails techniques, mais voilà, si un texte a été écrit avec des accents en français dans les années 90, il était encodé en ISO 8859-1, puis 15 lorsque le symbole euro a été introduit, et maintenant, tout le monde utilise de l'UTF 8, 16 ou 32 pour les plus fous.
À ce qui paraît,
bravo. Magnifique jeu de mots pour les plus savants. Et donc, ce genre d'outil est très utile. Ah, voilà, il a fallu le temps de transmission.
C'est la vitesse du son, c'est pas grave.
C'est pas grave. Donc, Shardet est un logiciel dérivé du code C++ de Mozilla, donc c'était déjà un gros flou, et il avait été décidé de le laisser en licence LGPL, mais c'était... Il y avait un petit flou. Et donc là, le mainteneur de Shardet a décidé, hop, on va réécrire tout le code... Et on va le mettre en licence MIT et on va utiliser pour ça Claude Code, une IA qui a réécrit tout le code. Voilà. Tout le code, il a été réécrit, c'est du nouveau code, on peut le mettre sous licence MIT, il n'y a pas de problème.
C'est quand même des méthodes de gougnafier.
C'est des méthodes de gougnafier.
Pour ne pas dire pire.
Ouais, et il y a un vrai problème parce que l'IA en question a accédé à tout le code LGPL, il s'en est inspiré et il l'a utilisé. Et en fait... Le niveau de similarité par endroit va être tellement proche que ça va être le même. Et en fait, c'est une forme de blanchiment de code, blanchiment de la licence.
Tu as deux doigts de défendre le brevet logiciel quand même.
Non, parce que on est sur une violation de droit d'auteur. On n'a pas besoin du brevet. On est sur une violation de droit d'auteur. Maintenant, ça va être... extrêmement compliqué parce que les IA génératifs vont être quand même capables de faire suffisamment de changements pour qu'on dise non, c'est pas le même programme, mais en fait, ça va être les mêmes algorithmes implémentés exactement de la même façon, où il va y avoir des variations introduites de manière complètement arbitraire, ça va être un sujet extrêmement compliqué. Et ça, par contre, c'est d'une dangerosité extrême. Je vais revenir sur les questions de tout à l'heure pour vraiment parler de l'impact de ce genre de choses. Prenons la question, peut-on vivre du développement d'applications open source ou libres ? Il y a une forme qui fonctionne de rémunération pour de la vente de logiciels en dehors du cadre de l'abonnement ou de la vente de support.
C'est le don.
Non. Le don, une entreprise, tu le dis à une entreprise, bonjour, c'est gratuit, mais si vous voulez, vous pouvez me donner une question. Alors, en gros, ils vont te donner, ils vont te donner 132 en binaire sur les doigts. Pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est un double majeur. Oui, 1, 2, 4.
Mais il y en a compris, voilà. Merci.
Donc, une solution qui a été souvent utilisée, c'est l'utilisation de la licence. En fait, j'ai vu ça sur un logiciel tout récemment, j'ai oublié de le noter, je suis désolé. Ce qui est fait, c'est de dire, tenez, ce logiciel est disponible sous licence GPL. Donc, c'est une licence qui ne peut pas être utilisée pour faire un logiciel propriétaire. Et si vous voulez le code sous une licence autre que GPL, remplissez le formulaire de contact et on va discuter. Par exemple, on prenait le cas d'OpenSSL ou de Log4j. Ce code-là, s'il avait été diffusé sous licence GPL ou contactez-nous si vous voulez l'utiliser dans le logiciel propriétaire, eh bien, il y aurait peut-être un financement qui serait possible.
Ça ressemble un peu à KDE, à Qt des débuts, non ?
À Qt des débuts, tout à fait. Même encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Qt fonctionne encore comme ça pour sa rémunération. Je suis en train de développer un logiciel autour de Qt et je crois que je ne vais pas avoir le choix de faire du propriétaire à cause du GIE Sésame Vital, si tu veux les détails fun. Et donc, la licence Qt, y a une règle très simple. Les composants sont libres, mais si vous voulez faire du propriétaire, certains composants ne sont pas disponibles sous une licence flexible. Et donc là, dans ce cas-là, il faut soit respecter plus de contraintes, soit demander à Qt une licence propriétaire.
Alors, tu as une minute pour une dernière brève et merci pour la dégicalisation.
Une dernière brève, on va s'amuser, on va parler de PSD2 et donc non.
On reste dans les cartes à puce.
Quoi ?
On reste dans les cartes à puce.
On reste dans les cartes à puce, mais pas les mêmes. On va parler des banques. Il y a de plus en plus de banques qui commencent à dire, notamment BoursoBank, la validation dans l'application mobile sera désormais indispensable. Parce que, vous comprenez bien, c'est la législation européenne qui nous oblige. C'est pas nous qu'on veut faire ça, c'est la loi. C'est faux. Voilà, c'est du gros pipeau. Non, la loi n'oblige pas l'authentification forte à travers une application. D'autres moyens sont autorisés, notamment donc le SMS ou les cartes, ce genre de choses. Accessoirement, jamais il n'a été obligé d'utiliser une application. Il était tout à fait possible d'utiliser un standard tel que les TOTP qui sont implémentés. Alors, l'implémentation la plus connue, c'est Google Authenticator, mais il y en a plein d'autres. Et en fait, ça, c'est ce standard-là. Pourquoi les banques ne l'ont pas utilisé ? Parce que c'est plus intéressant de vous faire passer par une application qui, de une, ne fonctionne pas sur un téléphone autre que Google et autre que Google verrouillé. Un téléphone non verrouillé, ça passera pas. Sujet à venir dans une prochaine émission. Et accessoirement, cette application pourra tracer un peu plus vos usages que si c'est juste une application tierce qui ne trace, qui est indépendante et qui ne va pas s'amuser à contacter la banque tous les 2-4 matins. Ça les gêne. Ils aiment bien savoir que vous êtes en vie. Ils se tiennent informés de vous. C'est très gentil de leur part, en fait. Pourquoi on leur reproche ? On n'est vraiment pas cool avec
non,
eux.
Non, on est cruel. Marie, merci d'être venue dans cette émission. Le mot de la fin, on te le laisse.
Mot de la fin. Donc, si vous allez sur ch'titdev.fr, vous retrouverez tous nos événements qui sont sur un mobilison. Et nous aurons une permanence pour ch'titdev le 18 mars, quelque chose qui s'appelle le garage de Lille. Et c'est en face du collège Carnot. Voilà.
À deux pas de la Grand Place.
Tout à fait.
J'ai oublié un truc sur ma dernière actualité. L'April a un atelier directif DSP2 qui liste toutes les banques et où est-ce qu'elles en sont ? Est-ce qu'elles imposent des applications ou est-ce qu'elles font encore les SMS ? Voilà.
Marie, une dernière ?
Et oui, je vais rajouter que nous avons un événement en non-mixité le 12 mars à La Madeleine. A-t-on encore besoin de l'agilité en 2026 ? Et enfin, le 2 avril, niveau senior et après, une table ronde pour les toujours pour les personnes femmes ou en minorité de genre. Merci.
Merci Marie d'avoir lancé l'agenda et on rajoute la permanence du dernier mardi de chaque mois, la permanence autour du livre réalisée par l'association Stinux. Ce sera donc le mardi 31 mars, on en reparlera lors de la prochaine émission, de 20h à 22h, comme d'habitude, au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux, métro République Beaux-Arts. C'était le 294e numéro de l'Écho des Gnous. On a eu le plaisir d'accueillir Marie. Tu reviens en deuxième semaine.
Merci.
Comment ça en deuxième semaine ? On n'a plus les
dans deux
émissions.
Semaines.
Oui, c'est une expression, Pierre.
Non, j'ai cru que tu le croyais encore à l'époque qu'on avait une phase B.
Non. On peut plus rien dire, monsieur Pierre. On ne peut plus rien dire.
Est-ce qu'on peut mettre à louer la phase B ?
On se retrouve donc avec Marie et Pierre le 20. 22 mars, dimanche à 19h, comme d'habitude, sur Radio Campus 106,6. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'électro de Chupa Pimento. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de week-end. Bon dimanche et à dans 2 semaines. Au revoir à toutes et tous.
Au revoir. Merci.
Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur.